Bienvenue à cette quatrième journée du cycle nourrir avec nourrir son corps et son esprit, non, absolument pas, voir avec sagesse. Et justement, cette journée, on va explorer un peu plus ce que veut dire, pourquoi le choix de ce titre, de ce nom, voir avec sagesse. Je vous disais donc que d'habitude je fais une semaine de retraite ici, dans ce lieu, pour préparer, pour bien rentrer dedans, parce que c'est ça qui me nourrit. J'ai pas eu l'occasion de le faire dû au décès de mon père, j'ai dû partir en Belgique. Et par contre, hier, j'ai eu une journée complète, donc c'était très dense. J'avais une journée pour vraiment plonger dedans, et c'était d'une grande densité. Et le soir, j'étais assez fatigué. Du coup, et tout était un peu brumeux. Donc on va voir, c'est toujours des processus, on va voir ce qui sort maintenant de ce processus. Je suis curieux de voir en fait ce qui va se dire, les chemins que ça va prendre. Et je me rappelle donc la dernière retraite qu'on a fait ensemble, il y avait pas mal de matière qui est venue, il y avait beaucoup, c'était très dense en fait. Et je suis content de voir que vous êtes toujours là. Parce que je me rends compte que c'est aussi un challenge, c'est pas forcément un type de retraite qui pose énormément. Il y a beaucoup d'apports et il y a beaucoup de notions qui viennent un peu déstabiliser aussi ou re-questionner. Et c'est le but. Justement, c'est le titre de cette journée, c'est les constructions et les solidifications. Et ben l'idée aussi, c'est de désolidifier des endroits où ça s'est trop solidifié et où du coup on relationne avec tous les événements de notre vie comme s'ils étaient très fixes, et avec ici d'une façon beaucoup plus générale la réalité comme si elle était figée. Voilà, donc voir avec sagesse, ça va être on peut déjà dire acquérir une certaine capacité de voir d'une façon un peu désolidifiée. Bon, c'est un chantier. C'est un chantier. Je me sens en plein chantier dans ce domaine. C'est pas quelque chose que j'aurais appris et que maintenant je vous transmets. C'est pas du tout ça. C'est pas ce genre de matière en fait qu'on explore. C'est pas une matière qu'on apprend et puis allez, ça y est, j'ai bien compris le truc et puis je le fais passer au suivant. C'est pas du tout ça. Je vous transmets mon chantier en fait. Et de là vont venir, j'espère, des aspirations pour vous qui vont nourrir votre propre chantier. J'espère que vous vous sentez en chantier plutôt que par exemple en train d'essayer d'appliquer une technique particulière. Voilà, de se sentir en chantier, de se sentir en recherche. Et je vais faire référence plusieurs fois à un livre que je suis en train de lire. Je suis même pas au tiers, mais il me plaît beaucoup. C'est un livre de David Bessis. Il s'appelle Mathematica, dans lequel il essaye d'expliquer sa passion pour les mathématiques, d'où ça vient. Et d'expliquer combien, en fait, on se bloque sur le formalisme mathématique qui est très compliqué. Et qui, du coup, nous semble complètement aride, alors que derrière le formalisme, ça parle d'un monde dans lequel il y a énormément d'imaginaire, d'inspiration, des objets qu'il ressent en lui. Enfin, donc je vais souvent citer ce livre, et déjà maintenant, il dit par exemple que lui, comme tous les mathématiciens, savent que quand ils vont aller à une conférence, ils sont prêts à savoir qu'après 5 minutes déjà, ils ne vont plus comprendre. Et que la conférence va être assez pénible, parce qu'en fait, ils ne vont rien comprendre du tout. Parce que c'est des sujets qui sont tellement compliqués, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine bien précis, qu'il exprime avec son propre langage, et que du coup, voilà, ça fait partie en fait du processus d'apprentissage, d'aller à des endroits et de savoir déjà qu'on va être loin de tout capter, loin de tout saisir. Et je pense que ça, c'est important aussi pour nous, dans les thèmes qu'au fur et à mesure qu'avancent ces retraites, les thèmes qu'on aborde sont de plus en plus complexes. Je les aborde dans mon langage, je les aborde avec mes propres confusions aussi, c'est ma recherche. Et du coup, c'est complètement et tout à fait normal qu'il y ait plein de choses, vous ne compreniez pas du tout de quoi il s'agit, Et donc, juste d'écouter un petit peu ce qui, dedans, devient vivant au fur et à mesure que se passe cette heure de discours, voilà, ça peut-être, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus fructueux, de manière à ce que votre propre chantier soit nourri. C'est pas un transfert de connaissances. Alors, voir avec sagesse. Il y avait dans le cercle final, je pense que c'était la dernière fois, un moment, il y avait l'un d'entre nous et qui avait été, il y avait eu, qui avait été repris par différents échos. C'est un peu cette notion qu'on entend souvent, en fait, que la question c'était pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que c'est parce que notre esprit est compliqué? Et que du coup on a besoin de toute cette complexité et de tous ces mots pour revenir à quelque chose qui en fait est très simple. C'est une notion qu'on entend, ça. Et qui est une notion équivalente à, en fait, c'est être des enfants. Voilà, c'est l'esprit de l'enfant. On l'entend souvent, cette notion. Elle est très belle et elle est très utile, mais elle a des limites aussi, cette notion. Un enfant, quand on dit, ben voilà, on pourrait croire que voir avec sagesse, c'est voir avec l'enfant, voir d'une façon directe, voir sans interpréter, voir sans, même sans nommer éventuellement, une perception directe des choses telles qu'elles sont. Hein, on peut entendre ce genre d'enseignement ou de discours, de discussion. Mais en fait, c'est pas du tout le point de vue du Bouddha, par exemple, sur ce que c'est l'éveil. L'éveil, c'est pas avoir juste l'esprit comme un enfant. C'est pas faire machine arrière et revenir au point où on en était avant. Et c'est très compréhensible. Et je pense qu'on peut le comprendre quand on voit qu'un enfant, par exemple, dès qu'il a quelque chose d'émotionnel qui le prend, il est incapable de le gérer. Il a besoin de nous, il a besoin de ses parents pour l'aider à calmer une émotion, parce que pour lui, qui est beaucoup plus dans ce qu'on appelle le moment présent, ben quand le moment présent, ça merde, mais c'est grave, parce qu'il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de moyen de métisser ça d'une compréhension de ça va passer, de ceci, de cela. Et donc il a besoin de ses parents pour lui dire ça va passer. Il ne le sait pas. Lui, ça envahit complètement tout son monde. Et du coup, l'enfant fait ce qu'on appelle une tempête émotionnelle, et on en voit, hein, où c'est catastrophique, et parfois pour des détails, ce qui nous semble des détails, après tout notre cheminement. Mais à ce moment-là, c'est pas un détail, il est complètement envahi, il est incapable de fonctionner, il peut être destructeur, c'est très destructeur pour lui de rester dans cet état, et il est incapable d'en sortir tout seul, il a besoin d'aide, il a besoin d'aide de quelqu'un qui a déjà vécu ça, et qui le comprend. Qui comprend ce qu'il a vécu et qui du coup peut amener une perspective. Et cette perspective, elle vient d'une compréhension, elle vient d'un travail de compréhension qui utilise la pensée, qui utilise la philosophie, qui utilise le concept. C'est nécessaire. On ne peut pas dire, c'est juste revenir à l'instant présent et vivre dans le moment. C'est ça la réalisation. Ben, pas du tout. Pas du tout. Et par contre, cette notion nous fait souffrir, peut nous faire souffrir potentiellement. On peut se dire, ben, j'ai perdu cette innocence et je n'arrive pas à la retrouver. Donc c'est comme si, en fait, on était dans l'échec. On avait quelque chose qu'on n'a plus. Alors qu'il y a cette belle phrase, je ne sais plus où je l'ai entendue, je me demande toujours si elle est quelque part dans la Bible ou pas, qui est, ce n'est pas de rester enfant qui vous est demandé, mais de redevenir des enfants. Mais dans ce cheminement, on gagne quelque chose. On gagne quelque chose qui est dans notre regard. Qui est dans notre regard, qui est dans la manière dont on voit les choses. C'est cette manière dont on voit les choses qu'on apprend en vieillissant. C'est cette manière dont on voit les choses qui pose problème ou qui nous fait voir la beauté ou la poésie. Donc c'est une manière de voir qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est cette manière de voir qui ouvre ou qui ferme. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a le sentier octuple des nobles dans le bouddhisme, donc qui est, je vous le rappelle, c'est la compréhension juste. Et c'est beaucoup là qu'on travaille pour le moment. La compréhension juste. Qu'est-ce que ça veut dire la compréhension juste? Et on a vu que la compréhension juste ne voulait pas dire la vérité. Une compréhension juste est une compréhension qui ne construit pas de souffrance. Voilà une définition qu'on pourrait dire dans la perspective, dans la manière dont moi je comprends la perspective du bouddhisme. Une compréhension juste n'est pas une définition ontologique de la nature de la réalité, mais une manière de voir chaque chose qui ne construit pas de souffrance. Donc la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, la concentration juste et l'attention juste. La compréhension juste et la pensée juste, c'est le secteur sagesse du bouddhisme. Alors que la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste, c'est l'éthique. Et puis après ça reste la partie méditative, l'effort juste, concentration juste et attention juste. Tous sont interactifs. C'est-à-dire que si on travaille juste sur la compréhension juste et la pensée juste, on ne va pas pouvoir atteindre l'éveil. Pourquoi ? Parce que il faut juste la compréhension, simplement d'avoir des compréhensions, et c'est ce que je pense voir dans une certaine tendance trop philosophique, comment on incarne ce qu'on comprend s'il n'y a pas la méditation, s'il n'y a pas vraiment un moment prendre ce qu'on a compris et essayer de l'expérimenter en nous pour l'intégrer. Comment on l'incarne? Comment ça nous transforme? Et on voit qu'on peut avoir des très très belles philosophies et vivre complètement en dehors et complètement autrement. Comme on voit par exemple dans le christianisme, tu ne tueras point, et puis après ça, faire des guerres et tuer tout le monde. Et tout en disant tu ne tueras point. Et il y a une belle philosophie, elle est super, mais ça n'empêche que l'action, elle n'est pas du tout en adéquation. Il y a l'intégration, elle n'a pas été faite. Donc juste la philosophie, juste la compréhension n'est pas suffisante. Et tout le secteur méditation va être nécessaire pour l'intégration de la philosophie. Mais aussi la méditation va amener des informations pour la philosophie et pour l'éthique. Et l'éthique, elle va permettre que nous, en tant que sujet, nous nous transformions parce que la perception qu'on a des choses dépend de... la perception qu'on a des choses dépend de qui on est. Donc au fur et à mesure que éthiquement on se transforme, j'ai un ami qui me disait par exemple que depuis qu'il ne mange plus d'animaux, il se connecte et il ressent les animaux beaucoup bien différemment. Bien différemment. Il a une relation avec les animaux qu'il n'avait pas tant qu'il mangeait de la viande. Il a pris cette éthique de ne pas tuer pour manger. Et depuis qu'il vit avec cette éthique, il a une relation. Il ressent complètement différemment les animaux. Il voit autre chose dans l'animal. Et donc, le sujet doit se transformer pour arriver à une finesse de perception. Donc voilà, c'est pour ça que le sentier octuple des nobles, c'est complètement interactif. On doit prendre soin de tous ces points. On pourrait avoir fait une division complètement différente, mais tous ces points doivent être dedans. Tout ça pour arriver à quelque part voir plus clair. Pourquoi? Parce que quand on voit pas clair, ça crée de la souffrance. Quand on voit pas clair et qu'on est plein de confusion, on est plein de souffrance et on crée plein de souffrance. Quand on voit plus clair, on est moins plein de confusion, on crée moins de souffrance pour nous-mêmes, on crée moins de souffrance pour d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire voir plus clair? Voir avec sagesse. Alors, sagesse, on vient un petit peu de l'expliquer déjà un petit peu avec la section compréhension juste, pensée juste. Mais voir, qu'est-ce que c'est voir? Alors, quand on parle de voir, très vite, d'abord, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'image des yeux. Voilà, voir. Dans son livre, David Bessis, il explique, il parle d'un mathématicien qui, Bill Thompson, je ne sais plus comment on prononce son nom, qui a eu un problème, il est né avec les yeux divergents. Et du coup, il n'arrivait pas à voir en 3D. Et il a appris. Il a appris à voir en 3D. Parce qu'il dit en fait, les yeux, chaque œil voit en 2D. Et le cerveau fait la synthèse. Du coup, la trois dimensions, le fait de voir des choses devant et des choses derrière, est une activité cérébrale. Ce n'est pas une activité des yeux. Il n'est pas contenu dans les yeux, cette capacité. Et donc, il parle de ce mathématicien, on y reviendra, qui lui a appris à son cerveau à voir la 3D, avec sa maman, qui a beaucoup travaillé avec lui. Et qui, du coup, est devenu un génie. Il a eu beaucoup de. Il a formulé beaucoup de théories mathématiques qui ont été plus tard vérifiées. Donc je vais vous lire un petit passage, ou plutôt j'ai assemblé quelques passages d'un livre, d'une discussion entre Mathieu Ricard et Wolf Singer. Wolf Singer c'est un neuroscientifique allemand. Voilà, et puis il y a des passages très intéressants. Et là, c'est juste Wolf Singer qui parle. Donc il dit, nous, donc les neuroscientifiques, considérons la perception, restons pour le moment avec les yeux, mais ça s'applique à toute la perception, considérons la perception comme un processus actif et structurant, grâce auquel le cerveau utilise sa connaissance a priori du monde, donc une connaissance a priori, c'est-à-dire qui est inconsciente, qui a été acquise avant qu'on le sache, pour interpréter les signaux envoyés par les organes sensoriels. Donc là, au niveau de la vue, ce qui voyage dans l'air, c'est des ondes qui sont captées par l'organe sensoriel qu'on appelle les yeux, mais les yeux ne voient pas, eux. Ils transmettent par le nerf optique un influx nerveux qui est intercepté par un décodeur qui est assez complexe, qu'on appelle le cerveau. Et ce décodeur, en fait, ça passe à plusieurs endroits du cerveau avant de fournir une image qui arrive à notre conscience. Donc lui, il l'explique dans des termes un petit peu plus techniques, mais j'aime bien la manière dont il le formule, c'est un petit peu plus pointu, donc je vous le lis. Voilà, ça c'est le genre de truc, si vous en travaillez rien du tout, c'est pas du tout grave. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de lire une description un peu plus spécifique. Une part substantielle de l'architecture du cerveau est déterminée par les gènes. Cette connaissance, qui a été acquise grâce au processus adaptatif de l'évolution, est stockée dans les gènes. Elle est déjà présente dans l'architecture fonctionnelle du cerveau du nouveau-né. Donc il y a une connaissance qui est déjà présente dans l'architecture du cerveau à la naissance. Et cette connaissance va être active dans le fait d'interpréter ce qui est perçu par les yeux. Cette connaissance est implicite, ce qui signifie que nous n'en sommes pas conscients parce que nous n'étions pas là au moment où nous l'avons acquise. Nous y recourons pourtant pour interpréter les signaux que nous envoient nos organes sensoriels. Sans cette immense base de données fournie par nos connaissances a priori, nous serions incapables de donner un sens à nos perceptions, parce que nous ne saurions pas comment interpréter les signaux sensoriels. Donc, quand on dit voir, quand on parle de voir, on ne parle pas que de l'activité des yeux. Voir est une activité cérébrale. Peut-être même principalement une activité cérébrale. C'est pour ça que on explique quelque chose à quelqu'un et on va dire, tu vois ce que je dis? C'est vraiment ça. C'est vraiment, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu es capable de l'envisager à l'intérieur? Comme tu es capable d'envisager une tenture ou la yourte ou une porte à l'intérieur. C'est là que ça s'envisage. Tout ce qui est perçu dedans. Stimuli arrive de l'extérieur, le cerveau fait son petit boulot, passe notamment par la mémoire, ce qui a été compare à la base de données, fait ce qu'il a, il en parle Wolfinger plus tard, fait ce qu'en anglais on appelle un best guess, c'est-à-dire qu'il fait une le meilleur best guess, la meilleure supposition. Voilà, merci. Donc la meilleure supposition possible. En fait, il va transmettre une supposition. Et on peut le voir, en fait. Ça, c'est vachement intéressant. Quand vous êtes assis et puis qu'il y a quelque chose qui bouge, qu'est-ce qui se passe? Il va très vite y avoir la supposition que peut-être c'est quelqu'un. Et peut-être dans certaines circonstances, ça peut nous faire peur. Et puis on va regarder. Et ce qu'on va voir, à ce moment-là, c'est une tenture. Donc on voit le cerveau qui nous fait des propositions. Ça va, mais à la vitesse de la lumière, hein. Mais il nous fait des propositions de ce que ça peut être. Et tout ce qu'on perçoit, ce sont des propositions du cerveau, plus ou moins affinées. Il va utiliser la totalité, aussi les sons, les sensations physiques, les odeurs, le goût, tous les sens vont participer à créer une image la plus cohérente possible de ce qu'on appelle la réalité. C'est une construction. Savoir que c'est une construction permet d'avoir une relation différente avec cette construction. Elle est nécessaire, on ne peut pas fonctionner sans cette construction. On a besoin de constructions qui fonctionnent bien, mais on ne peut pas fonctionner sans construction. On va parler beaucoup de construction, souvent, ou on pourrait parler aussi d'une illusion quelque part. Hein? On y viendra. Mais toujours très important, c'est quelque chose, je réalise de plus en plus l'importance de ça. Quand on dit, parfois on va dire, oh, c'est juste une construction. On va voir des constructions, il peut y en avoir à tous les niveaux de notre être. Quelqu'un ne nous dit pas bonjour et on se fait toute une histoire, c'est une construction. Là, on est à la perception d'un arbre, c'est une construction. À un certain niveau. À d'autres niveaux, non. Mais toujours quand on dit c'est une construction, ça ne doit pas être péjoratif. Parce que c'est le processus de connaissance. C'est entre connaissance de quelque chose qui est et création de ce qui est perçu. On est toujours dans cet endroit-là. Je serais incapable de réécouter le discours. Si, je pense que je peux redire ce que je voulais dire, c'est que notre ce qu'on appelle la réalité, et on est incapable de dire si c'est une perception de quelque chose qui est là ou une création. Voilà. Et on va voir que dans tous les domaines qui se posent la question est plus brûlante maintenant qu'elle ne l'a peut-être jamais été. Peut-être pas, parce que c'est une question qui c'était brûlant déjà chez les philosophes en Grèce, c'était brûlant déjà dans l'hindouisme et le bouddhisme. Mais maintenant, je vais dire, dans notre culture, il y a encore une centaine d'années, la science avait l'intention de découvrir tous les fonctionnements de la réalité comme si la réalité était objective. On avait la notion que la réalité n'avait rien à voir avec celui qui l'observe. Elle est complètement objective, elle est là, elle est posée, et on peut faire par des expériences, on peut tout quantifier, mettre en relation, et peu à peu distinguer et comprendre tout à propos de la réalité. Et maintenant, c'est une vision qui est en train de s'éroder à grande, grande, grande vitesse, en fait. D'ailleurs, c'est ce que dit, par exemple, Poincaré, qui est un mathématicien et philosophe des sciences français du 19e siècle, disait: une réalité complètement indépendante de l'esprit qui la conçoit, donc une réalité complètement indépendante de l'esprit qui la conçoit, la voit ou la sent, est une impossibilité. Même s'il existait un monde aussi extérieur, nous serait à jamais inaccessible. Et un physicien autrichien, Wolfgang Pauli, qui a eu le prix Nobel en 1945, disait: le profane veut toujours dire, lorsqu'il dit réalité, qu'il parle de quelque chose qui va de soi. C'est quand on ne se questionne pas, ben voilà, il y a la réalité, et puis voilà, ça va de soi, c'est la réalité. C'est complètement solidifié. Alors qu'il me semble que la tâche la plus importante et extrêmement difficile de notre temps est de travailler à la construction d'une nouvelle idée de la réalité. Prix Nobel de physique. Donc, on est en train de dire que voir est une démarche de l'esprit. Parfois avec des objets sensoriels et on voit des images, parfois avec d'autres sens, et du coup on a une le mot, voilà, c'est ça, le mot, je recherchais le nom latin, en fait le mot évidence vient du mot evidere, je sais pas si je le prononce bien, et qui veut dire voir, en fait. Donc tout ce qui nous apparaît comme évident, en fait, fait partie de ce qu'on voit. C'est juste, on est en train d'essayer de définir autrement le terme voir. Que veut dire voir? Que veut dire voir avec sagesse? Ce n'est pas juste un travail des yeux, c'est un travail de la totalité de notre compréhension. Voir, c'est comprendre. Voir, c'est penser, disait ce mathématicien. Voir, c'est penser. Voir ses pensées, mais pas n'importe quel type de pensée. Les pensées intuitives, rapides, qui peuvent directement se connecter à l'objet parce qu'elles le connaissent. Donc je vous lis un passage du livre Mathematica. Comment feriez-vous pour expliquer à quelqu'un comment faire ses lacets si cette personne n'a jamais vu de chaussures et que votre seul canal de communication est une conversation téléphonique? Personne n'a jamais vu de chaussures. Et par téléphone, vous devez lui expliquer comment faire ses lacets. Il dit, c'est ça le problème des mathématiques avec le formalisme. On essaye de parler de quelque chose, mais il dit, nous, on n'a pas la chance, comme les musiciens, de pouvoir faire entendre ce que veut dire notre partition. Il disait, si on essayait d'apprendre aux enfants dans les écoles à lire des partitions alors que les enfants n'ont jamais entendu de musique, ça serait complètement aride et ça n'aurait aucun sens. C'est le problème des mathématiques. Ça parle de vraiment quelque chose de beau, de noble, de ressenti, de physiquement palpable, d'inspirant, de passion. Mais pour en parler, c'est comme essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu de chaussures comment faire ses lacets par téléphone. Cette réalité pratique de l'enseignement des mathématiques, et c'est pareil pour la spiritualité, c'est pour ça qu'il y a tant de discours et tant de discours et tant de discours à propos de parfois des choses qui au final, dans notre vécu, peuvent être beaucoup plus simples. Cette réalité pratique de l'enseignement des mathématiques conditionne les difficultés concrètes que nous rencontrons tous. Les mathématiciens professionnels ont ce point commun avec les nuls en maths, ils savent ce qu'on ressent quand on est complètement largué. Parce que c'est trop compliqué quand on en parle. Cette expérience fait partie de leur quotidien. Et voilà, c'est là qu'il dit un mathématicien qui assiste à une conférence de recherche sait qu'il va probablement décrocher dans les 5 minutes. Il sait qu'ensuite, ça ne servira plus à rien d'insister. Ce sera juste douloureux et humiliant parce que les mots qui seront prononcés ne voudront plus rien dire pour lui. Mais un mathématicien professionnel sait qu'être largué est une étape normale du processus de compréhension. Il ne se vexera pas et il ne fera surtout pas semblant de comprendre. Donc ici, ce que vous voyez n'est jamais la réalité brute, mais une interprétation du monde. Dit autrement, une reconstruction, produite par votre mémoire et votre imagination. Ça, c'est très important à retenir, c'est que ce n'est pas juste, donc ce n'est pas une perception, ce n'est pas juste une conscience indépendante de la mémoire qui voit. Donc voir les choses telles qu'elles sont n'a plus de sens déjà, à ce stade de compréhension. C'est une simplification dans la spiritualité qui est nécessaire. Ça nous permet d'accéder directement d'une façon simple au moment présent. Mais une fois qu'on questionne un petit peu ces notions, eh ben, elles tombent. On passe à des notions plus complexes, plus profondes, qui nous amènent plus loin. Donc, et dans la manière dont on perçoit, il y a de la mémoire et de l'imagination. Donc, la connaissance de la réalité est teintée d'imaginaire. On ne peut pas séparer l'imaginaire et le mettre en dehors du réel. Et là, ça met une belle claque à notre monde actuel, dans lequel l'imagination, depuis le 16-17e siècle, est considérée comme l'inverse de la réalité. Ah, c'est imaginaire, ça. Alors qu'en fait, l'imaginaire est un outil de constitution de la réalité, de ce qu'on perçoit. Très important, parce que quand j'ai compris ça, pour moi, ça a fait comme un ballon d'oxygène. Parce que vraiment, cette sécheresse de laisser tout l'imaginaire comme complètement inutile à la vie, sauf si vous voulez écrire des livres ou écrire des films ou faire un tableau de peinture. Et sinon, l'imaginaire ne sert pas vraiment à grand-chose. Peut-être éventuellement un petit peu envisager son futur. Mais bon, voilà, n'a aucune place dans la manière de connaître la réalité. N'a aucune réalité en lui-même. Ce manque de place pour l'imaginaire, je pense, est un des grands traumatismes de notre enfance et de notre vie et de notre société et de manière de s'envisager. Donc je reprends la phrase. Je reprends même depuis le début. Ce que vous voyez n'est jamais la réalité brute, mais une interprétation du monde. Dit autrement, c'est une reconstruction produite par votre mémoire et votre imagination sur la base de signaux visuels bruts dont vous n'avez jamais directement conscience. La conscience est quelque. C'est, on, quand, une autre remise en question du moment présent, en fait, il y a un décalage de temps entre le moment où le signal visuel entre dans les yeux et le moment où on a une image, parce qu'il y a un travail qui se fait. Donc on est conscient de l'image qui vient d'être fabriquée en fonction d'une perception qui a été faite juste avant. Il y a un processus de temps là. Le jour de votre naissance, vous ne saviez pas encore voir, non pas parce que vos yeux ne fonctionnaient pas encore, mais parce que votre cerveau n'avait pas encore appris à donner du sens à l'information brute. Donner du sens. Donc voir, c'est donner du sens. Voir, c'est donner du sens. Cette même faculté de reconstruction vous permet maintenant d'imaginer des choses qui n'existent pas et d'avoir l'impression de les voir. Voir et imaginer, ce n'est pas si différent. Donc voir avec sagesse, c'est voir d'une façon qui ne construit pas de souffrance. C'est pas chercher à voir la réalité telle qu'elle est. Je pense que ça vaut la peine de se le répéter encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on déconstruise cette notion qui est qu'on va voir les choses telles qu'elles sont. Parce que les choses sont en fonction de la manière dont on les voit. Ça repart dans l'autre sens. À la façon dont on voit quelque chose, alors cette chose est. Donc voir avec sagesse va nous... C'est apprendre à avoir un regard qui construit une réalité qui ne fabrique pas de souffrance. Pour revenir un petit peu sur l'imaginaire comme partie de notre conception, je tombais l'autre jour sur un texte de Descartes qui m'a beaucoup inspiré, et j'en ai un extrait ici. On conçoit un triangle sans avoir à l'imaginer. Donc si je vous dis triangle, tout le monde sait de quoi je parle. On conçoit un triangle sans avoir à l'imaginer. Mais si on l'imagine, il devient présent à l'esprit. Donc là maintenant, essayez de voir un triangle. On arrive à voir à l'intérieur cette forme, le triangle. Donc là, ce qui est intéressant dans juste cette phrase, c'est que il fait une différence entre la conception et la perception. On conçoit un triangle sans avoir à l'imaginer, c'est-à-dire sans avoir à se le figurer, sans avoir à le voir. On peut aussi l'imaginer, mais c'est plus de travail. Donc en fait, on a cette conception qui est directement accessible. Plus loin, il l'appelle l'entendement. Donc plus loin, donc il dit l'imagination. Attendez, je reprends alors. On conçoit un triangle sans avoir à l'imaginer, mais si on l'imagine, il devient présent à l'esprit. L'imagination demande un effort pour maintenir présent son objet, que ne demande pas l'entendement. Juste le fait de le concevoir, on dit triangle, vous savez, ça y est, il est conçu. Il est voilà, on sait de quoi on parle directement. Il est là, le triangle. Il est en nous. Alors que le triangle est une notion inventée par l'homme. Le triangle n'existe pas dans la nature. C'est l'homme qui projette. Ça, c'est Emmanuel Kant qui disait l'homme projette la structure de son esprit sur l'extérieur et c'est ça qu'il voit. Donc on voit des triangles et des carrés et tout ça parce qu'on a appris la géométrie. Il n'y a pas des triangles et des carrés dans la nature. On décode la nature en fonction de la structure de notre esprit. Donc, juste là, on dit triangle, tac. Le triangle est déjà présent. Si on veut voir le triangle, c'est un peu plus de boulot. Mais on a tous ces concepts sont là et ils sont appelables. C'est l'entendement. Donc ils sont accessibles directement, presque en non-temps. Donc c'est ce mathématicien Thurston, donc qui a appris à voir en trois dimensions. A du coup appris à voir en quatre dimensions et en cinq dimensions. En mathématiques, on peut rajouter autant de dimensions que nécessaire. Voir en quatre dimensions ou en cinq dimensions n'implique pas les yeux. C'est une capacité de l'esprit. Parce que sinon, on se dit, mais ça veut dire quoi? Quatre dimensions, cinq dimensions, douze dimensions? Non, ça n'implique pas les yeux, c'est voir. Mais la plus grande activité de voir, ce n'est pas les yeux qui l'a fait. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc quand il parle de voir en quatre dimensions et cinq dimensions, il arrive à articuler des objets en quatre ou en cinq dimensions. Objet, on ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus. Mais il est devenu célèbre pour ça, parce que de là, de sa capacité d'avoir des relations en objet avec des objets en quatre ou cinq dimensions, il a tiré des conclusions qui ont grandement fait évoluer les mathématiques. Et donc, dans une interview donnée dans le New York Times, voici comment Thurston résume les choses. Les gens ne comprennent pas comment je peux visualiser quatre ou cinq dimensions. Les formes à cinq dimensions sont difficiles à visualiser, mais ça n'empêche pas de les aborder par la pensée. Penser, c'est véritablement la même chose que voir. Pour un mathématicien, voir signifie penser de manière rapide et intuitive. Pouvoir librement, ça c'est important, pouvoir librement invoquer un objet. Pouvoir librement invoquer un objet. Directement, sans avoir besoin de réfléchir, comme si l'objet existait vraiment, comme s'il était là juste devant nous. La facilité d'accès et l'instantanéité comptent davantage que la nature proprement visuelle de la perception. Donc, on peut voir à partir du moment où c'est évident, c'est accessible, c'est direct, c'est instantané, on se connecte à une notion, à quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire ou du conceptuel. Et on peut le voir et du coup le vivre. Et je pense que ça, c'est une compréhension qui, quand on lit les discours du Bouddha, nous permettent de mieux comprendre tout ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'on a besoin de concevoir différemment la réalité et de se concevoir nous-mêmes différemment. D'interpréter, toujours interpréter ou concevoir. Concevoir veut dire imaginer, créer. Hein? Concevoir. Donner vie, concevoir un enfant. concevoir de magnifiques idées. Hein, c'est un drôle de mot, hein, c'est entre l'imaginaire et donner vie à quelque chose. Donc la manière dont on va concevoir notre expérience va déterminer quelle est notre expérience, en toute chose, à tous les étages de notre être. C'est difficile de déterminer tous les étages. Il y a le psychologique. Si, je ne vais pas partir dans cette direction, ça va me prendre trop de temps. C'était une autre branche, ça. Hop. Non, 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 pas par là, Denis. Si je vous dis conscience, qu'est-ce qui vient? Je vous dis triangle, tac, le triangle est là. Je vous dis conscience, qu'est-ce qui vient? C'est plus compliqué que triangle. C'est pour ça que c'est un problème. Conscience, enfin que c'est un problème. En tout cas, là, il y a un chemin. Si conscience était aussi accessible, si la nature de la conscience, ce que veut dire conscience au plus profond de nous-mêmes, était aussi accessible que triangle, on pourrait le rappeler et se connecter à la conscience, à ce qu'est la conscience, de la même manière que Bilderstone qui voit en quatre ou cinq dimensions. Rapide, quick, instantané. Voir. C'est la familiarité avec la notion conscience qui nous permet, en tout moment de notre quotidien, de voir la conscience qui perçoit un phénomène en elle-même, plutôt que je vis ceci ou je pense cela. Là, comme c'est dit là, ça fait ah, ah oui, ah, ok, ah oui, si, si. Mais vous voyez, c'est pas accessible comme ça, c'est pas encore assez intuitif. C'est pas encore assez approprié, c'est pas encore assez intime. Ça peut. Comment? En y réfléchissant et en le ressentant. Qu'est-ce que c'est la conscience? Est-ce qu'on peut la sentir? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Quels sont les différents niveaux? Les différentes manières de la comprendre, devenir familier peu à peu, passer du temps avec la conscience elle-même. Voir ce que c'est la conscience elle-même, la concevoir, lui donner vie dans notre réalité. Et peu à peu, la conscience, du coup, fera partie de notre vie à tous les endroits, en tout moment. On pourra, quand c'est nécessaire, rappeler et changer, du coup, cette manière de voir. Si je suis assis et qu'il y a plein de pensées, je peux me dire. Oh, j'arrête pas de penser, j'arrive pas à méditer, il faudrait que j'aie moins de pensées. C'est une manière de voir. Celle-là, elle est. C'est la manière de voir la plus accessible, intime, directe. C'est la réponse automatique pour la grande, 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 grande majorité de nous, en tout cas en Occident, peut-être bien partout dans le monde, je sais pas. C'est je qui pense. Voilà. Je pense, j'arrête pas de penser, j'arrive pas à m'empêcher de penser, tout ça. Et puis, si on a cette familiarité avec conscience, on peut dire, des pensées émergent dans la conscience. C'est autre chose. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout vécu pareil. Il n'y a plus place pour la culpabilité déjà. Allez, ciao. Plus rien à voir avec jeu. Hein? Il n'y a plus. Il y a des pensées qui émergent dans la conscience. Là, à ce moment-là, on maintient l'objet conscience dans notre présence. Et du coup, la manière dont est vécue cette situation, elle est vécue comme des pensées qui émergent dans la conscience. Alors, ça peut être, on peut la voir, par exemple, et c'est juste, tout est juste. C'est pas qu'il y en a un qui est juste et qui est faux, c'est qu'il y en a qui de temps en temps créent des problèmes et d'autres non. On peut voir aussi, voilà, on peut ressentir, je suis conscient de ces pensées qui émergent. Magnifique, je suis là, pensées émergent, et je me sens conscient de ces pensées qui émergent, elles disparaissent. Magnifique, mais on peut aussi sentir que La sensation je émerge aussi dans la conscience. Ah là là, un miroir de plus là. Cette sensation je suis conscient, ou cette sensation c'est ma conscience, la conscience de qui exactement? Elle appartient à moi cette conscience. Et cette notion, elle appartient à moi cette conscience, ou cette sensation, parce que ça n'a pas besoin d'être un mot, ça n'a pas besoin d'être visualisé. Ça n'a pas besoin d'être matérialisé pour exister. Elle est là, cette sensation, je suis conscient. Elle, pas obligatoirement. Elle existe parce qu'elle est conçue de la sorte, cette expérience. Cette expérience pourrait être conçue autrement. Elle pourrait être conçue comme il y a la conscience et tout ce qui bouge émerge dans la conscience, y compris la sensation je. Y compris la sensation je suis conscient et perçu par la conscience elle-même. C'est une manière de voir. C'est juste une manière de voir. C'est pas une vérité ultime. C'est juste une manière de voir. Mais elle fonctionne bien. Pourquoi? Parce que quand on voit comme ça, il y a très peu de jeu. Et quand il y a peu de jeu, il y a peu de souffrance. Quand il y a beaucoup de jeu, il y a beaucoup de moi là, beaucoup de moi partout et tout. Là, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'hyperactivité, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de se demander ce que l'autre, ceci, cela, de sensation de ne pas y arriver, enfin, il y a plein de trucs. Et quand il n'y a pas ça, quand il n'y a pas ce jeu tout le temps là, eh ben, proportionnellement, en fait, il y a de moins en moins de souffrance. Et ce jeu est une interprétation d'une situation, c'est une manière de voir, implicite. Elle était déjà transmise dans les gènes, d'après les neurosciences en tout cas. C'est une manière de voir qui est nécessaire. Attention, n'allons pas jeter la pierre au jeu ou au moi. Elle est nécessaire pour fonctionner. Moi, je rentre chez moi, je suis un père. Je suis pas juste la conscience. Ça n'a pas marché, ça. Il faut pas jeter une pour une plus qui semble plus profonde ou plus ultime. Oui, elles ont des natures différentes, c'est vrai. Quand on est dans la sensation de conscience elle-même, tout ce qui émerge dans la conscience, y compris dans la sensation je suis un père, semble presque semble construit déjà et semble illusoire, transient, qui va bientôt s'arrêter. Semble un peu vaporeux. Mais il n'empêche que cette notion je suis un père ou je suis ceci, je suis cela, elles sont utiles, sauf celles qui nous détruisent, hein, celles-là on peut les virer, mais elles sont nécessaires au fonctionnement de la vie, elles construisent la réalité. Plus on va vers la sensation d'une conscience perçoit toute chose, en fait, moins de choses vont être construites. Beaucoup moins de jeux. Alors si vous enlevez déjà le jeu, il y a énormément de choses qui s'en vont. Mais aussi même dans les perceptions. Peu à peu, il y a quelque chose qui se pose. Il y a de moins en moins de perceptions. Il y a un grand calme qui s'installe. Encore plus, encore plus, encore plus. C'est finalement le lâcher prise dont on parlait le mois passé. On lâche l'identification, les identifications, qui sont nécessaires à certains moments, je le redirai à chaque fois, parce qu'il y a trop de problèmes dans la spiritualité avec le fait de jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Elles sont nécessaires, ces identifications, mais pas tout le temps. Et en méditation, si on veut vraiment aller faire l'expérience de du non-construit, et le non construit, je le mets en parenthèse parce que ça sera questionnable plus tard, mais pour le moment, laissons-le comme ça. Si on veut vraiment aller faire l'expérience du non construit, d'un espace de nous-mêmes dans lequel tout ce qui a été construit n'apparaît pas, ce qui s'est construit dans le temps, là, toute l'identité et tout ça, un espace de nous-mêmes dans lequel tout ce qui a été construit n'apparaît pas, il faut lâcher. Il faut lâcher quoi? Notre intérêt. Il faut lâcher notre intérêt pour les choses qui émergent. Le jeu émerge avec un projet. Non, 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 non. Bien gentil. C'est pas le moment. Il est beau ce projet, je l'aime beaucoup, mais non. je ne me laisse pas attraper. Mon attention n'est pas prise. Du coup, le projet ne peut pas grandir. Il a besoin de mon attention. Et c'est mon attention qui nourrit les pensées, les projets et les pensées misérables à propos de moi-même ou quoi que ce soit. Tout ça a besoin toujours de mon attention. Si je n'accorde pas mon attention à quelque chose, cette chose cesse d'exister. Et donc, en lâchant prise, encore, encore et encore, peu à peu, toutes ces constructions ne sont plus nourries, peuvent se poser. Ce qui est ressenti, puisque l'attention n'est pas embarquée et du coup rétrécie, puisqu'elle, quand elle s'embarque en fait dans une pensée, dans un son, dans une douleur, dès qu'elle s'embarque dans quelque chose, comme si elle devenait cette chose, en tout cas, elle se rétrécit, l'attention devient. Elle perd cette dimension vaste qu'on lui ressentait intérieurement. Mais si on n'a aucun intérêt dans les phénomènes, dans ce qui s'appelle la réalité et qui se présente, si on n'a aucun intérêt pour le moment dédié de la méditation, on n'a aucun intérêt dans rien de ce qui se présente. À ce moment-là, tout ce qui se présente n'est pas nourri, l'attention reste vaste et peu à peu le paysage se pose, diminue. Et alors là, ça peut faire une super belle expérience. Mais vous savez, au final, ce qui transforme, c'est pas une belle expérience. C'est pas juste d'avoir une belle expérience qui transforme. C'est de comprendre. Et on en revient de nouveau à la compréhension juste. Plein de gens, et peut-être nous, on a eu des expériences qui auraient pu nous faire comprendre qui on est vraiment et ce qu'est vraiment cette histoire. Mais à ce moment-là, on ne l'a pas comprise. On n'était peut-être pas au bon, c'était peut-être pas au bon moment, on n'est pas dans le bon contexte non plus. On n'est pas entouré de gens qui nous aident à décoder nos expériences d'une certaine manière de voir, avec une certaine manière de voir. Et du coup, cette expérience qui pourtant nous montrait clairement, comme le nez au milieu de la figure, qu'on n'est pas ce qu'on est, qu'on croit qu'on est. Eh ben, hop, on s'en rappelle. C'était une expérience, il s'est passé quelque chose, peut-être un accident, peut-être la perte d'un être cher. Il y a eu un moment, il y a eu une expérience qui nous montrait clairement, mais après, hop, ça se referme et ça se resolidifie. C'est pas une expérience qui va transformer. C'est pour ça que revenir à la paix de l'esprit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est de comprendre. C'est quoi la paix de l'esprit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche la paix de l'esprit? Et qu'est-ce qui se passe quand à un moment tout est vaste et paisible? Ça arrive de temps en temps. Et je suis bien conscient que pour certains d'entre vous, il doit y avoir la sensation, moi je n'ai jamais rien connu de tout vaste et paisible en méditation. C'est plutôt pas vaste et pas paisible. Mais quand même, je suis sûr, parce qu'il y a des gradations là-dedans. Je ne parle pas d'un endroit où tout est vaste et paisible. Il y a des moments. Il y a des moments où il y a moins de pensées, il y a des moments où il y a moins de sensations jeu, il y a des moments où le temps change, il y a des moments où il y a moins d'agitation, de perception. Même si c'est 2 secondes, 3 secondes, ça nous dit quelque chose qu'après il nous faut comprendre. Donc là, ce que je proposais, c'est j'ai mis en avant une manière de voir qui était. On pourrait dire, ce n'est pas moi qui perçois, c'est la conscience qui perçoit, par exemple. Ou je suis la conscience, chacun le formule un peu comme il veut, finalement. Une manière de voir qui. Je l'aime bien, cette manière de voir. Elle n'est pas ultime, hein. Les bouddhistes ne seraient pas d'accord avec ça, en fait. Une manière de voir qui fonctionne bien jusqu'à un certain point. Mais ça nous suffit. Ça nous suffit. Cette manière de voir va déconstruire énormément et va nous permettre de faire des expériences d'une certaine profondeur qui, après ça, vont nous amener des informations. Donc, c'est une manière de voir, si elle vous parle, qu'il est nécessaire de développer. Comment? Par la réflexion, les lectures, l'écoute. Beaucoup la réflexion. Il faut qu'il y ait un feu qui brûle, qu'il y ait une curiosité, à mon sens. Il faut qu'il y ait une réelle curiosité. Que ça soit là, que ça soit présent en nous. Qu'est-ce que c'est la conscience? Qu'est-ce que c'est cette capacité de connaître? Par exemple, je vais peux vous en donner une qui est sympa là. Je vais repartir dans un truc là. Ok, non. Juste, je me disais l'autre jour, je réfléchissais à la douleur. Très intéressant, mais on n'a pas le temps. Mais juste de se dire, quand il y a une douleur et qu'on dirige notre attention ailleurs, je m'emballe dans un truc. Non, ok, cet après-midi, je m'en rappellerai, promis, promis. Cet après-midi, là, c'est reste après-midi. Donc, un questionnement au niveau de la conscience, si ça devient vraiment proéminent dans notre vie, si ça devient présent et qu'on peu à peu on devient familier avec la notion, à travers de la lecture, de l'écoute et beaucoup de réflexion, et à travers de l'expérimentation, c'est-à-dire s'intéresser au phénomène de la conscience dans nos méditations, et pas s'intéresser à ce moment-là. Pas parce que c'est mal, mais parce que c'est pas dans l'objet de nos recherches. À ce moment-là, on s'intéresse moins à nos émotions ou à ce qu'on veut changer ou voilà. Si on se concentre sur notre respiration, c'est pas parce qu'on veut connaître notre respiration. C'est parce que c'est la manière de ressentir la conscience pour que la conscience puisse être en lien avec elle-même. Parce que c'est quand on est barré dans les pensées qu'en fait on perd cette sensation de conscience. Donc voilà, s'il y a un questionnement, un feu qui brûle, peu à peu la conscience va devenir quelque chose de connu, quelque chose d'intime, quelque chose d'appelable à l'esprit directement, sans qu'on doive le figurer, le réfléchir et se remémorer tout ce qu'on sait à propos pour ah, et à ce moment-là, de nouveau, on arrive à prendre cette perspective dans une situation. Là, directement, on peut prendre la perspective de conscience dans la situation, tout le temps. Tout le temps parce qu'on la connaît, parce qu'on a passé du temps avec, parce qu'on en a déduit des compréhensions. C'est un peu comme conduire, hein. Rappelez-vous, ceux qui conduisent là, première fois là, heureusement que c'est sur un grand parking vide, hein. Il faut regarder les vitesses, il faut regarder les pédales, il faut regarder devant. Enfin, hein, et puis après ça, dès qu'on est dans les rues, c'est la panique parce qu'il y a aussi des voitures qui arrivent à gauche et à droite, mais il faut quand même encore regarder les vitesses parce qu'on n'a pas encore bien. Et maintenant. Plus rien, on peut complètement penser à autre chose, c'est intuitif, c'est complètement là, c'est complètement acquis. Et ça peut l'être pour des manières de voir. Le triangle, c'est complètement acquis. La conscience, c'est un peu plus compliqué. Mais si on y passe du temps, on peut se voir comme étant la conscience elle-même. Et personne, jamais, ne pourra démontrer que c'est pas vrai. Personne ne pourra jamais démonter cet argument. Il y a toujours moyen d'argumenter pour dire oui, ok, toi tu dis que je suis moi, mon corps et tout ça, et que la conscience. Par exemple, c'est une grande discussion chez les neuroscientifiques pour le moment. Parce qu'ils voient toute l'activité cérébrale, tout ce qui produit les émotions, qui prend les décisions, les zones ceci, les machins cela, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la conscience. Qu'est-ce qui fait qu'on est conscient ou pas conscient? Ça, on ne voit pas. Mais alors, du coup, il y a une idée que c'est la totalité des activités du cerveau combinées qui crée la conscience. C'est une hypothèse de travail, pourquoi pas? C'est l'hypothèse matérialiste, c'est-à-dire que c'est la matière qui crée la conscience, le cerveau qui crée la conscience. Et puis il y a quelques neuroscientifiques qui sont pas du tout d'accord avec eux, qu'on appelle les post-matérialistes, qui pensent que la conscience n'est pas un produit créé par le cerveau. Voilà. Et à ce stade de nos connaissances, personne ne peut dire que la conscience est personnelle, individuelle. Ça peut très bien être une lumière qui filtre à travers chaque vitrail de notre existence. La même lumière. Donc dans la méditation que je vais guider, là, je guide comme je guide toujours, je guide ce que moi je fais, je guide avec mes petites techniques à moi pour arriver là où j'ai envie d'aller. Et puis je vais la guider comme ça. Si vous avez d'autres mots, eh bien, utilisez d'autres mots. Si vous avez d'autres manières de faire et que vous arrivez à ignorer ma voix et faites complètement autrement. Mais en sachant bien que voilà, c'est vous, votre quête de découvrir dans votre expérience, d'une façon donc phénoménologique, d'une façon de comment moi je vis, qu'est-ce que c'est la conscience? Pourquoi? Parce que si je deviens familier avec ça, je vais pouvoir y retourner parce que ce point de vue, cette manière de me voir, comme je suis la conscience, ne construit moins de souffrance, même si elle n'est pas tout le temps efficace. Très souvent, quand on voit comme ça, il y a toute une problématique de vie qui disparaît. Toute une acceptation qui, du coup, est une évidence même. Merci pour votre écoute.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roburex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.